Bonjour, c'est Nicolas Caro. Aujourd'hui, je vous emmène visiter la bibliothèque de Bruno Solo, une bibliothèque circulaire.
Bonjour Bruno Solo.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir chez vous. On est en banlieue parisienne.
Ouais.
Dans une jolie maison avec un petit jardin, c'est très mignon. Et alors là, on vient de rentrer dans votre salon et on découvre cette bibliothèque incroyable, circulaire. Ça a été fait sur mesure, ça?
Ouais, c'était un mur arrondi. C'est pas un mur d'angle, c'est un mur, un demi-cercle. Et j'ai demandé à un menuisier de me fabriquer une bibliothèque qui épouserait cette forme si particulière, et ça a été très compliqué. Il a mis pas mal de temps parce que c'est très difficile de faire des planches droites en bois et qui d'un côté paraissent droites et de l'autre côté épousent une courbe très douce, ouais. Comme ça. Donc c'est un vrai travail. Je suis très fier. Je crois que c'est vraiment l'objet, le meuble que je préfère, déjà parce qu'il a été créé, il n'a pas été acheté comme ça, et que ça a été long, et que ça a été un travail de fou, et quand il a eu terminé, et que je lui ai indiqué, voilà, fais-moi des cases un peu plus grandes, ce sera pour les livres d'art, des plus petites pour les livres de poche, des moyennes pour les BD, des plus larges, des plus hautes. Donc elle est un peu anarchique comme ça, cette bibliothèque, et en même temps, bon voilà, elle est anarchique aussi dans son rangement, hélas, vous n'avez pas les images.
C'est une tour de livres, en fait, ouais, côté infini, parce qu'on ne voit pas la fin, mais évidemment, ça tourne, donc on est d'un côté.
Et il doit y avoir un truc comme 3000 bouquins.
Ouais, il y a beaucoup de livres, et effectivement, là, comme ça, de loin, bon, il y a quelques beaux livres d'un côté, quelques BD de l'autre, mais sinon, j'ai l'impression que c'est pas hyper, hyper rangé, Bruno.
C'est mon drame. Elle a été rangée. Elle a été formidablement rangée, parce que je suis assez maniaque. Elle a été rangée par auteur. J'ai même, à un moment, j'avais fait des classements aussi par genre. C'était plus compliqué, mais sur des petites... Et puis, j'ai eu un problème, c'est que quand j'ai fait fabriquer cette bibliothèque, j'ai stocké mes livres dans des cartons, dans mon garage, et il y a eu des pluies torrentielles. Mon garage étant en pente, les cartons se sont pétés la gueule, et ils se sont déchirés, et tous les livres se sont mélangés. Alors, il y a des blocs logiques où on retrouve des auteurs les uns à côté des autres, et je me promets depuis 2-3 ans de tout reclasser. Mais c'est un travail de titan, parce que comme vous pouvez le voir, il y a une première rangée et une deuxième rangée, il y a une couche et une sous-couche derrière.
Mais il y a quand même, c'est vrai, d'abord ces beaux livres qu'on voit en entrant, donc beaux livres, c'est-à-dire grand format avec des photos très belles, etc. Ouais. Il y a du Bosch, il y a Miro, La Terre vue du ciel de Yann Arthus Bertrand, c'est des gros beaux livres qu'on a vraiment envie de...
Il y a tout un livre sur Guernica que j'aime beaucoup, qui me tient très fort à cœur, qui est toute une étude autour de l'œuvre de Guernica en noir et blanc. Il me tient à cœur parce que en 1977, avec mon père, j'ai fait un voyage aux États-Unis et qui était principalement motivé pour mon papa d'aller voir Guernica au Met de New York, parce que Picasso avait dit, tant que Franco sera au pouvoir, mon tableau ne sera pas, puisqu'il symbolisait l'oppression du peuple espagnol par les nazis et par les armées franquistes, mon tableau ne sera pas en Espagne. Et donc nous sommes allés quasiment pour plein de raisons, mais la raison principale qui poussait mon père à aller là-bas, c'était d'aller voir Guernica. Et je me souviens de son émotion puissante, bouleversante, transperçante devant ce tableau de Guernica, et lui me tenant la main très fort, me la broyant quasiment. Et moi, bon, les 5 premières minutes très émues, et puis au bout d'un moment, envie de passer à autre chose, évidemment. Et envie d'aller voir l'Empire State Building, et j'étais à New York. Mais voilà, et c'est un cadeau qu'on m'a fait il y a quelques années, voilà.
On n'a pas dit, mais il y a un fauteuil magnifique à côté de votre bibliothèque, magnifique parce qu'il appelle vraiment à la lecture.
Ouais. Hein,
c'est un fauteuil semi-allongé.
Oui, voilà, c'est idéal pour lire, effectivement. Tu te mets comme ça. Alors moi, je suis petit, donc ça va, mes pieds pendent. Pour les plus grands, effectivement, c'est peut-être moins confortable. Mais moi, effectivement, c'est un endroit où, de temps en temps, j'aime bien juste tendre la main droite, puisqu'il est à gauche de la bibliothèque, tendre ma main droite, m'emparer d'un livre et le lire ou le feuilleter. C'est plutôt pour feuilleter. Quand je veux vraiment lire, je me mets dans une position plus concentrée, plus ramassée.
Alors, il y a beaucoup de romans aussi. Il y en a un qui m'attire l'œil parce que je l'adore. J'en avais parlé l'année dernière sur Europe 1. C'est Donald Ray Pollock, chez Albin Michel. Une mort qui en vaut la peine. C'est l'odyssée de trois frères, des desperados, voyou, violent,
désespéré,
mais avec une force poétique. Vous aimez cet auteur, Donald Ray Pollock?
Je l'ai découvert grâce à un libraire qui m'a dit, je cherchais un grand polar, je venais de terminer un Jim Harrison, il me dit, ah, vous aimez Jim Harrison? Je dis oui, tout à fait. me dit, est-ce que vous connaissez Donald Ray Pollock? Et donc, j'ai dit non. Et il m'a vendu Le Diable est partout.
Le Diable tout le temps.
Le Diable tout le temps.
Qui est juste à côté.
Voilà, qui est juste là, Le Diable tout le temps.
Enfin, à côté, qui est sur une autre
étagère. Oui, je sais,
faut,
mais parce que je l'ai lu à un bon moment, et l'autre, je viens de finir de le lire. Donc, je l'ai mis là, il fait partie de ce que je dois classer. Je m'en sortirai jamais, c'est horrible, j'ai pas envie de parler de ça.
Il y a du plus classique, il y a Balzac, La Cousine Bête, il y a Henri Muller, Tropique du Cancer.
La Cousine Bête, c'est mon préféré.
Raymond Queneau, Zazie dans le métro, Marcel Aimé, Steinbeck, Les Raisins de la Colère,
Pérec, dingue de Pérec.
Ah, j'aime bien cette collection de livres de poche.
Elle est belle, c'est la collection de poche un peu Pléiade.
Voilà, c'est ça.
C'est tout Pérec, ça. Si j'avais été un écrivain, j'aurais aimé écrire comme Queneau ou Pérec. Mais Pérec, en plus, il a tout pour lui, une bonne gueule, un humour formidable. C'est un mathématicien de l'écriture. C'est-à-dire une écriture à la fois très douce, très délicate, très pointilleuse et en même temps complètement débridée et scientifique quand il écrit quand même La Disparition.
Ouais, sans E.
Livre de 300 pages sans la lettre E, ouais. Et qu'il y a des critiques à l'époque qui s'en sont même pas aperçus, qui n'ont même pas vu et qui ont dit quel beau livre de Pérec. Et en fait, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que dans la vie d'un homme, il lui manque quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce que c'est? Il n'arrive pas à le définir. Et en fait, c'est une lettre, une simple lettre qui change son quotidien et sa vision du monde. C'est un livre.
Il suffit d'essayer de se faire une phrase dans la tête sans la lettre E pour se rendre compte à quel point c'est compliqué. Ouais, je suis dessus.
Mais attends, c'est...
Vous aimez la science-fiction aussi?
Ah oui! Je crois même que j'ai été initié à la littérature par la science-fiction. C'est Bradbury, Van Vogt, Simak, Wells bien sûr, mais c'est plus ancien, mais dans les auteurs américains, Philip K. Dick bien sûr, Richard Matheson. Je crois que vraiment je suis venu à ça. Et un des tout premiers livres que j'ai eu, que mon père m'est donné, parce que c'est évidemment mes parents qui m'ont dit, c'est ça, 20 meilleurs récits de science-fiction, il est abîmé, il est dans un état épouvantable, on y retrouve La Mouche, le fameux...
Cronenberg.
Voilà, adapté par Cronenberg, de George Langland. Puis après, je me suis mis, mais on a longtemps traité avec un peu de condescendance la littérature en France, notamment de science-fiction, et puis on y est revenu, maintenant on a découvert que des gens comme Philip K. Dick ou Ray Bradbury, c'était tout sauf juste des guignols qui écrivaient des histoires d'extraterrestres, mais des grands philosophes. Il faut avoir lu Demain les chiens pour se rendre compte à quel point c'est un livre vertigineux, quoi. Vertigineux que Inception n'a fait que s'inspirer, à mon goût, d'un livre comme Demain les chiens.
Et à côté des livres de science-fiction, on trouve fort logiquement Jean Echenoz, Courir, qui est la biographie romancée par Jean Echenoz de Zatopek, qui est un livre incroyable. Je vois qu'il est annoté.
Oui.
Pourquoi vous prenez souvent des notes comme ça?
Le tout premier film que j'ai produit, c'est quand même dingue, t'as un œil incroyable parce qu'on n'a rien préparé, là tu tombes là-dessus. Le tout premier film que j'ai produit il y a très 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 longtemps, en 2000, et film cinéma, c'est le seul film parce que maintenant je produis que pour la télé, ça s'appelait Un an, et c'était un roman de Jean Echenoz. Aérien. Et voilà, et j'ai lu Aérien, exactement.
Ouais. C'est le livre que j'offre dès que j'ai une occasion,
c'est
un anniversaire, un truc comme ça.
Ah, c'est chouette, ça me fait plaisir parce que je trouve très délicat ce livre aussi.
Est-ce que vous avez un livre que vous offrez systématiquement?
C'est marrant que tu me poses la question. Il y avait un livre à un moment, mais c'est un peu vicieux de ma part, que j'offrais quand j'allais manger chez des gens. C'est Mangez-le si vous voulez de Jean Tenet.
Qui raconte le fait divers d'un lâchage dans une population, dans un village.
Mais pour les gens qui ne sont pas initiés à la littérature, déjà le livre est très court. Il est terrible. C'est un des livres, je crois, avec American Psycho, un des seuls livres que j'ai arrêté en cours de lecture parce que j'étais pris de nausée quand même. Tiens, ça, c'est un des derniers livres que j'ai lus.
Amos Oz.
Amos Oz, Judas. Auteur israélien, athée.
Qui frôle le prix Nobel chaque année.
Ouais, mais formidable. Cette théorie sur Judas, qui n'est pas le traître ayant vendu le Christ, mais au contraire, celui qui aimait tellement le Christ qu'il a dénoncé pour prouver aux hommes qu'il allait ressusciter et voyant. Et c'est là que, évidemment, les théologiens ne sont peut-être pas d'accord avec Amos Oz. Voyant qu'il ne ressuscitait pas, choisit de se suicider parce qu'il dit décidément, il n'est pas le fils de Dieu, il est juste un homme, comme vous et moi, un homme exceptionnel, certes. Et donc voilà. Donc Judas n'est pas un traître, mais au contraire son plus grand fan, quoi. Et cette théorie est très belle et elle a été défendue par d'autres historiens, hein, je la trouve intéressante.
Bon Bruno, on pourrait rester des heures, on a fait à peine 1% de votre bibliothèque, mais on va vous laisser pour la ranger, pour prendre le temps de tout classer par ordre alphabétique.
Merci.
Merci beaucoup Bruno.
C'était chouette Nicolas, merci
à bientôt,
beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Partez avec moi visiter d'autres bibliothèques en vous abonnant sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée, et évidemment sur le site et l'application Europe 1. À très vite.